Même audio, une mémoire sonore.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir, ravis que vous soyez si nombreux à la veille du 1er mai. Une date qui a induit le thème des rendez-vous de l'actu, le sens du travail, avec, par ordre alphabétique, Lise Cazola-Brunet. Vous levez votre main, s'il vous plaît, c'est elle. Professeure agrégée à l'université Toulouse 1 Capitole et spécialiste du droit du travail. Prisca Kergoa, professeure à l'université Toulouse Jean Jaurès au département de sciences économiques et de gestion ainsi qu'au département de sociologie. Vous travaillez au carrefour de la sociologie et du travail. Ai-je lu, vos recherches portent sur la formation professionnelle, politique des grandes entreprises, professionnalisation des universités, socialisation des jeunesses populaires. Enfin, on aura le loisir de découvrir tout ça. Et enfin, donc toujours par ordre alphabétique, Margot Trarieux, sociologue et enseignante. Vous êtes coordinatrice d'un ouvrage que vous allez montrer, s'il vous plaît. Travailler fait-il toujours sens? C'est aux éditions RS. Les éditions RS qui sont présentes au fond de la salle. Donc vous pourrez vous procurer cet ouvrage que Margot se fera un plaisir de dédicacer, ainsi que d'autres ouvrages ayant tous trait, bien évidemment, au travail. Alors, je viens de donner des professions, d'indiquer des professions, et lors de notre discussion de préparation, on va dire, avec Lise, l'illumination est venue. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas commencer cette rencontre en demandant à chacune de mes invitées quel est le sens qu'elles accordent à leur propre travail. Et est-ce qu'elles ont choisi leur travail en fonction justement d'un sens précis ou est-ce que c'est le fait du hasard ou des capacités de chacune? Donc vous avez deux micros. Prisca, si vous voulez commencer. Sociologue, c'est... quel est le sens que vous accordez à votre travail? Est-ce ce sens qui a décidé de votre destin?
Oui, bah moi j'ai une chance absolue, hein, c'est de pratiquer un travail que j'aime et que j'ai choisi.
Voilà, c'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas, loin de là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une chance absolue et qui donne du sens, hein, effectivement, aussi à ma vie, à mes aspirations, à mes valeurs. Et à un certain nombre d'idées que je souhaite aussi défendre à travers mes enquêtes et mes ouvrages.
Parfait. Lise, je suppose que la réponse va plus ou moins ressembler à celle de Prisca. Vous n'avez pas choisi ça, votre travail, par hasard?
Je ne l'ai pas choisi par hasard, mais c'est quand même largement lié au hasard.
Ah oui, quand même.
Oui, c'est pas un choix de hasard.
Approchez votre micro, d'autant plus que nous sommes enregistrés, donc
d'accord.
Ce serait dommage qu'on ne vous entende pas.
Non, le droit, c'est quand même surtout un hasard, on va dire. J'étais pas du tout destinée à ça. Dernière nuit famille nombreuse, trois médecins, trois ingénieurs avant, et le droit. Et moi, j'étais plutôt destinée à une carrière sportive. Et c'est vraiment le hasard. La carrière sportive à laquelle je visais, il y avait un concours, il y avait 34 places, j'étais la 35e.
Dans quel sport, si ce n'est pas indiscret?
C'était athlétisme, mélange athlétisme. Voilà. Donc après, il fallait se réorienter et voilà, le conseil de famille a décidé que les professions intellectuelles, c'était pas mal pour moi. Et en revanche, là où c'est un peu moins le hasard, c'est que dans le choix du droit, et pour arriver assez vite au sujet de notre conférence, c'était le sens que j'y voyais, en tout cas pour moi, c'est que depuis, j'avais besoin quand même de faire quelque chose d'utile. Et je m'étais dit, le droit, ça servira toujours à quelque chose. Donc je suis vraiment partie là avec beaucoup.
Et le fait d'être professeur, c'est encore plus, si je puis dire, utile, puisqu'on transmet.
Alors, ça c'est venu après, mais que j'avais déjà dans le sport, la transmission. Les trois premières années de droit ont été terribles. Je me suis terriblement ennuyée. Je me suis vraiment demandé si c'était fait pour moi. Et j'ai commencé à y trouver un intérêt à partir de la quatrième, c'est-à-dire à partir du moment où on nous a commencé à demander à réfléchir. sur ce que c'était, à quoi ça servait, vers où ça pouvait nous mener. Et puis ensuite, c'est une sorte de soif d'apprendre qui a pris le dessus et qui fait que j'ai mené les études de droit au bout du bout jusqu'à l'agrégation et ce qui m'a permis d'être professeur. Et maintenant, et depuis que je le suis, donc je suis plutôt en fin de carrière, là, j'ai vraiment trouvé le sens. Donc c'est vraiment dans la transmission, dans le contact avec les jeunes. Et notre point commun avec Prisca, c'est qu'en effet, j'aime ce que je fais. Et ça, ça ne m'a jamais lâché. Mais ce qui ne me lâche pas, c'est le plaisir d'être avec les jeunes et le plaisir de transmettre.
Jeunes qu'on salue, puisque certains et certaines Absolument. Font partie du public.
Absolument.
Margot, même question.
Alors, merci pour cette question, Brice, parce qu'en effet, elle est très importante, il me semble. Pour ma part, j'ai vraiment, j'allais dire, choisi avec plaisir de faire de la sociologie parce que j'ai commencé par des études en gestion. Et en 2 années en entreprise dans des bureaux, je me suis énormément ennuyée. Et puis par ailleurs, ça me semblait assez insensé ce que je faisais. J'étais derrière un bureau sur des tableaux Excel à gérer la rémunération de personnes que je rencontrais jamais. Donc je suis repartie en études il y a une dizaine d'années et en reprenant ces études en sociologie, psychosociologie, j'ai vraiment retrouvé du plaisir à penser. Donc il y avait quand même quelque chose d'une restimulation qui était vraiment nécessaire pour moi à ce moment-là.
Vous dites ça en écho à ce que disait Lise.
Tout à fait. Et par ailleurs, en cheminant, j'ai fait le parcours à l'université d'un master, d'une thèse. Là, ça fait 3 ans que j'ai terminé ma thèse, que j'enseigne auprès de publics différents, donc en licence et en master de sciences sociales, mais aussi auprès de travailleurs sociaux, d'apprentis ingénieurs, par exemple. Et alors, le sens que j'y trouve, c'est vraiment l'utilité. Voilà, je reprends votre terme de la transmission. Je dirais aussi, quand on est face à un public jeune, pour ma part, d'accompagner des projets professionnels, des questions existentielles aussi, parce que quand on est enseignant, on ne traite pas juste le contenu du cours, il y a aussi toutes les questions existentielles qui se posent à ces moments de vie. Et puis, l'utilité, le plaisir, et j'allais dire la reconnaissance aussi, la reconnaissance entre les pairs. Voilà, donc j'y trouve du sens aujourd'hui, malgré les conditions objectives parfois difficiles dans le secteur de l'enseignement et de la recherche.
Oui, j'imagine, oui. J'ai cité votre ouvrage, « Travailler fait-il toujours sens ?» On pourrait croire, on aurait pu croire que les rendez-vous de l'actu s'étaient calqués sur la sortie de cet ouvrage pour traiter ce thème. Que nenni, les grands esprits se rencontrent. Nous avions décidé d'aborder ce thème et puis j'ai appris au cours de mes recherches que cet ouvrage allait paraître, donc il est paru. Ça veut dire quelque chose, quoi. Ça veut dire que c'est dans l'air, ce thème. Et je voudrais vous entendre là-dessus, parce qu'effectivement, ce n'est pas par hasard là non plus que ce livre est sorti.
Oui,
maintenant, je veux dire.
En effet, ce livre, il a émergé d'une réflexion qui date d'il y a plusieurs années, enfin qui a commencé à plusieurs années, sur la sensation qu'il y a une demande sociale autour du sens du travail ou au travail aujourd'hui, et puis en même temps un discours politique, médiatique, qui revient souvent sur la crise de sens ou la quête de sens, qui parfois réduit aussi la question du sens à le sens se perd, le sens se trouve dans certains métiers et se perd dans d'autres. Donc il y a eu un désir collectif de penser cette question du sens, face à, en tout cas, ce constat d'une demande sociale. Pardon, j'ai oublié deuxième partie.
Justement, à quel désir correspondait la sortie de ce livre ? Vous avez répondu en grande partie, me semble-t-il.
Oui, et j'allais simplement rajouter que le second désir derrière ce livre, qui est issu d'un événement scientifique, un colloque qui s'est déroulé il y a 2 ans à Paris, c'était vraiment d'entendre. Ce n'était pas de donner une réponse, nous, de nos places d'universitaires sur ce qu'est le sens, mais c'était aussi d'entendre une multitude de personnes qui travaillaient sur cette question du sens dans des métiers différents, ouvriers, thanatopracteurs, enseignants, dans les centres équestres, enfin beaucoup de secteurs, beaucoup de métiers, et vraiment de partir du bas, c'est-à-dire de comprendre comment le sens se construit dans l'activité, dans le travail réel de toutes les personnes aujourd'hui en France, mais aussi dans d'autres pays, puisqu'il y a quelques recherches.
Nous y replongerons et je suppose que vos réflexions seront nourries de ce travail que vous avez chapeauté. Prisca, votre regard là-dessus sur le fait qu'effectivement, ça il est difficile de le nier, le thème du travail et le sens du travail apparaît maintenant beaucoup plus que, je peux parler de mon grand âge, il y a 30 ans ou il y a 20 ans.
Oui, alors je relativiserais peut-être un peu. Parce que c'est une interrogation courante, en fait, hein, la question du rapport au travail est peut-être encore plus courante, et le questionnement autour du rapport des jeunes au travail, avec des questions un peu redondantes autour de leur insouciance, de leur volonté de rémunération des fois faramineuse. Et en fait, c'est un débat qui revient, je crois, à toutes les générations. Hein. On regarde déjà dans les années 60, c'était un débat très, très développé, hein, autour évidemment de mai 68, du slogan « Métro, boulot, dodo », qui a été très largement repris juste après par Jean Rousselet, avec un ouvrage qui s'appelle « L'allergie au travail des jeunes ». On le retrouve encore chez Gors, Alain Gors, le philosophe, dans les années 80, qui nous explique que pour les jeunes, le travail n'est plus central. Hein. Donc c'est quelque chose
Dans les années 80, on disait ça ?
Eh oui.
Ah,
oui,
oui. C'est drôle qu'on ait cette... Je dis « on » parce qu'honnêtement, il n'y a pas que moi. Et puis j'ai interrogé des gens autour de moi. Cette sensation que c'est maintenant, avant tout, que se pose cette question.
Je ne pense pas. Et même peut-être pour l'anecdote, on a un petit texte qu'on attribue à Socrate. Donc, vous voyez, 4e siècle avant Jésus-Christ, et qui dit « Les jeunes aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. » Donc, vous voyez, déjà à cette époque, les générations les plus anciennes questionnaient le sens des jeunes et de leur rapport au travail. Donc, en fait, je pense que ça revient à toutes les générations.
Alors, il y a peut-être une chose, je ne peux qu'être d'accord avec vous parce que vous avez des arguments, mais le travail d'aujourd'hui, c'est considérablement, mais là aussi, comme les années précédentes et les siècles précédents, c'est considérablement changé. Ouais,
mais le travail se transforme tout le temps, sous l'effet de la transformation des formes d'organisation du travail. On pourra peut-être venir à travers aussi la transformation des statuts d'emploi et de la précarisation, de la montée du chômage. Donc, bien évidemment, je pense que chaque génération repense son rapport au travail en fonction des contraintes qu'il perçoit à travers ses parents ou la génération qui lui succède. Et donc, il me semble que ce n'est pas une perte de la centralité au travail. D'ailleurs, je crois qu'on a eu un sondage Ipsos qui montrait que 91% des jeunes disaient que pour eux, le travail était important.
D'accord.
Donc voilà, ça reste une valeur très importante. Mais par contre, c'est l'emprise du travail sur la vie, il me semble, qui est re-questionnée à chaque génération. Et quand on est sorti du taylorisme et du fordisme dans les années 60, il y avait toute une génération qui aspirait à plus d'autonomie, à plus de reconnaissance au travail. Et aujourd'hui, on est effectivement face à une génération qui s'inquiète à travers, encore une fois, ce qu'ils voient à travers leurs parents, où on y reviendra par leur propre expérience du travail, qui s'inquiètent de cette emprise qui est plus seulement vécue comme une emprise physique, qui était le propre du taylorisme, de ces gestes répétitifs, sans sens,
etc. Les temps modernes.
Qui est très bien illustré par les temps modernes, et qui aujourd'hui une crainte plus subjective d'emprise. Et c'est pas par hasard s'il y a une valorisation du télétravail, une valorisation d'une meilleure conciliation des temps sociaux, où effectivement maintenant on valorise moins le bureau avec fauteuil en cuir et baie vitrée, et on préfère effectivement avoir plus de temps pour soi.
On va y revenir. Lise, est-ce que vous êtes surprise par les propos de Prisca ?
Alors, surprise, non. Mais pour autant, je ne les partage pas entièrement. Si je peux me permettre, c'est l'utilité du débat.
Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tant qu'on ne se bat pas, tout est possible.
On ne se battra pas. Le mot qui me fait réfléchir, C'est le, quand on parle d'insouciance, de dire que les jeunes sont insouciants, et le rapport au travail de la jeune génération, etc. Alors, je parle sous le contrôle de ceux qui sont là, mais j'en ai d'autres. Et c'est la particularité du milieu universitaire, c'est qu'on est en contact avec la jeune génération. Et pour ma part, je suis spécialement en contact avec cette tranche d'âge qui finit ses études, qui va sortir de l'université et qui va rentrer dans la vraie vie. Donc, sur le marché du travail, avec les emplois, etc. Voilà. Et moi, je les sens tout sauf insouciants.
Non, mais je crois que Prisca n'a pas dit qu'il alors, l'était. Hein.
D'accord. Alors,
C'était l'accusation qu'on leur portait.
Non. Oui, tout à fait. C'est par rapport, j'ai dit que c'était le mot qui me faisait réfléchir, réagir. Et là où je pense qu'il faudrait... ma réflexion, en fait, elle invite à plus de nuances, en effet. Et là, on se rejoint. Je pense que la jeunesse, elle est insouciante. Si elle n'avait pas cette part d'insouciance, ça ne serait pas la jeunesse. Donc ça, il faut effectivement se garder d'opposer ou de faire des choses qui ressembleraient à des jugements en faisant ce rapport-là. Surtout quand on met le travail au milieu. Et s'agissant du travail, moi, je les sens tout sauf insouciants. Et je les sens pas du tout dans un manque d'envie de travailler. Au contraire, même par rapport à notre génération, à nous et à la génération d'avant, en tant que parents cette fois, j'ai l'impression qu'au contraire, ils réfléchissent beaucoup plus que ce que nous, on a réfléchi quand on s'est demandé ce qu'on allait faire de notre vie plus tard. Si je trace à grands traits, nous, on a fait des études, plus ou moins choisies, plus ou moins guidées par le hasard.
Pour certains, hein, pour certains. Pas les...
Non, mais bien sûr.
Ouais, tout le monde n'a pas fait des études.
Je parlais de mon entrée universitaire.
Tout à fait.
Et puis ensuite, assez vite, une fois qu'on a le diplôme et une fois qu'on a terminé nos études, on a travaillé, on est allé dans le prolongement d'eux. On a fait des études de médecine, on est allé vers médecine, on a fait des études de droit, on est allé vers avocat ou magistrat, etc. Et on n'a pas trop réfléchi à ce step-là, j'avais envie de dire. Alors que la jeune génération, elle réfléchit beaucoup plus. Et moi, ce que j'observe à l'université, c'est, je ne vais pas dire la majorité, mais des étudiants de plus en plus nombreux qui font des études compliquées, qui passent des concours difficiles, l'avocature, la magistrature, et très très vite, qui s'y essayent un an, deux ans, et hop, au bout d'un moment, ça ne fait pas sens pour eux. C'est pas ce qu'ils imaginaient, c'est pas ce qu'ils voulaient. Et donc, ils font marche arrière et ils se réorientent. Et là, je pourrais vous citer plein d'exemples de ce cas-là. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de travailler.
Alors, justement, explorons ce chemin-là. Pour tout vous dire, devait se trouver avec nous. Et puis, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pu assister à notre rencontre. Devait se trouver un monsieur qui était gestionnaire. Qui était gestionnaire de... Alors, je ne sais plus, c'est un nom un peu savant, enfin, qui s'occupait, bref, de gestion, quelque chose d'un peu austère, quelque chose, et qui a tout lâché pour devenir boucher charcutier. J'aurais aimé recueillir son témoignage de vive voix, mais quand nous en avions parlé, vous m'aviez dit là, pour le coup, vous n'étiez pas étonné. C'est des destins, des destins qui obliquent et qui sont relativement fréquents. Aujourd'hui, bien évidemment.
Oui, aujourd'hui, oui. Si vous voulez des exemples très concrets, pour le coup, alors, moi, je dirige un master 2 spécialisé en droit social à l'université. Et dans les exemples qui, moi, auront marqué ma carrière, il y a 3-4 ans de cela, un étudiant doué, brillant, et qui lâche le master 2 à là où en sont nos étudiantes qui sont là aujourd'hui, à quelques semaines du diplôme du master 2. Et un stage, et dans le stage, un manque d'investissement dans le stage, ça ne lui ressemblait vraiment pas. Et donc, je le reçois, j'essaie de comprendre, je l'appelle, j'explique un cabinet d'avocat, ce n'est pas toujours facile, il y a des rythmes à suivre, etc. Et il se remet en selle, et puis ça ne s'arrange pas. Bon, je raccourcis l'histoire. En réalité, dans l'année, il avait perdu son grand-père. Et son grand-père travaillait le cuir du côté de Mazamé, etc. Ouais. Et à un moment donné, c'est cette histoire familiale qui a ressurgi et qui fait que le droit pour lui, alors qu'il était en fin d'études, ça a perdu du sens et c'était plutôt ce qui a commencé à l'animer. C'était cette volonté de récupérer un métier, de que ce qu'il l'aller faire dans la vie fasse sens quelque part avec l'histoire familiale et avec les liens forts qu'il avait avec ce grand-père.
Bon.
Donc il a quitté, il a entrepris des études de maroquinerie depuis le début. Et aujourd'hui, juste pour vous dire que parfois, moi, je ne les juge pas, parce que je sais que des fois, le destin refait très bien les choses. Et finalement, il a fait les études de droit, il a fait les études de maroquinerie. Je l'ai perdu de vue, mais je l'ai retrouvé l'autre jour sur LinkedIn. Et il est responsable d'un service juridique chez Hermès à Paris.
Ah, le droit quand tu le tiens.
Donc des fois, il ne faut pas avoir peur de faire des grands écarts. Et des exemples comme ça...
Mais vous croyez que ça, c'est, pour reprendre le lièvre soulevé par Prisca, vous croyez que c'est inhérent à notre époque ou...
Ce que je sens chez la jeune génération, par rapport au sens... moi, les réorientations ou les changements de cap, ou même quand ils savent pas encore trop vers où aller. Moi, quand ils finissent leur Master 2, qu'est-ce que vous voulez faire après? Je ne sais pas encore. Alors que nous, on ne se posait pas trop cette question-là. On y allait sans être sûr que ça nous plairait ou pas. Eux, ils ont besoin que ça plaise et ils ont besoin de ce sens qui est quand même compliqué à définir. Mais est-ce que c'est particulier à notre époque J'avais envie de vous répondre par une pirouette. Je ne sais pas, j'en ai pas connu d'autres. Mais j'ai quand même l'impression que ce qui me touche dans leur questionnement, c'est le fait que ce qui revient souvent, c'est qu'il y a un besoin de faire plus sens par rapport aux liens familiaux qu'ils ont eus précédemment, par rapport à une histoire familiale. Donc il y a un ancrage, comme un ancrage familial. Et ce qui revient très souvent aussi dans les réorientations, c'est la volonté de faire des activités qui touchent plus à l'humain.
D'accord, très bien.
Voilà, moi j'ai beaucoup d'exemples comme ça.
Margot, c'est votre expérience ou l'expérience des gens qui ont écrit dans votre ouvrage corrobore ce qui vient d'être dit sur ces changements de destin dus à l'appel du sens, justement. C'est un peu votre propre exemple, si j'ai bien suivi.
Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites.
Commentez, n'hésitez pas.
Peut-être une première chose qui est revenue dans la présentation de Lise et Prisca, c'est comment on construit son rapport au travail. C'est sûr, il y a de quoi on hérite, de quelles contraintes on hérite, de quel héritage aussi, avec quel héritage on arrive, qui va donner du sens dans certaines activités ou d'autres. Et puis, il y a la projection sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui nous attend derrière tel ou tel choix, si on peut dire choix, parce qu'on ne choisit pas toujours ce qu'on fait. Il y a aussi des conditions, bien sûr, objectives dans lesquelles on est, qui nous amènent à devoir faire des choix un peu contraints. Ça, c'est le premier élément. Et il me semble que j'imagine, enfin moi, je ne suis pas spécialiste sur l'évolution de la pensée de la jeunesse sur le rapport à l'emploi, mais cette question du sens, elle s'est posée tout le temps.
Oui, c'est ce que disait Prisca.
Tout à fait, donc là-dessus, je m'accorde tout à fait avec Prisca. Peut-être, en effet, ce que vous avez rappelé, Prisca, c'est ce point de la centralité du travail dans notre société aujourd'hui, en tout cas la centralité de l'emploi, politiquement, en tout cas on nous le présente toujours comme ça, et la pression d'une jeunesse qui cherche à s'insérer dans un monde plus ou moins chaotique, avec une crise écologique qui affecte énormément de métiers et par ailleurs des projections dans un avenir incertain. Donc tout ça participe de la construction du sens du travail des jeunesses, parce que moi j'en fréquente quelques-unes, mais nos enquêtes diverses nous amènent à en fréquenter d'autres, et il y en a beaucoup d'autres. Peut-être un autre élément que je trouve intéressant dans ce que présentait Lise là, c'est la question des bifurcations. Il me semble aussi que donner du sens à son travail, ça peut être bifurqué, changer de métier, changer d'activité, de secteur, mais parfois aussi ça peut être des aménagements collectifs et individuels dans son propre travail. Parce que médiatiquement, on nous présente beaucoup de figures de bifurqueurs. Alors par exemple... Moi, qui travaille dans des écoles d'ingénieurs et qui travaillait sur les écoles de commerce, on présente souvent, ah oui, il a eu un diplôme d'une grande école, et puis aujourd'hui, il est artisan dans le Lot, etc.
Oui, on connaît tout ça, moi, je connais aussi, je pourrais vous citer.
Ça reste des parcours possibles pour donner du sens à son travail, mais il n'y a pas que ces parcours radicaux, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens aussi, il me semble, de construire du sens sans bifurquer, sans faire ces ruptures pour parfois revenir dans le secteur principal. Voilà.
Prisca, je voudrais soumettre, dans la préparation de cette rencontre, je suis tombé sur ces mots de Mathieu Slama, qui dit « Le travail est une sorte de religion d'État qui régit l'intégralité de nos vies. c'est important de dire que le travail est d'abord une souffrance. Et lui, il rejette l'idée d'un travail facteur d'émancipation. Vous en pensez quoi, vous qui avez terminé en nous en parlant des travaux difficiles, justement, âpres ou laborieux?
Je pense que le travail a toujours une double facette. Il est en même temps aliénation et en même temps possible émancipation. Le travail, effectivement, il est capable du pire, mais il est aussi capable du meilleur. Il offre parfois aux travailleurs la possibilité d'accroître leur estime de soi, leur amour de soi.
Tous les travaux, d'après vous? Ou...
Presque tous. Si vous regardez les sondages, par exemple, on peut être étonné du nombre d'ouvriers. Les ouvriers sont plus nombreux que les classes intermédiaires à dire aimer leur travail. Alors, qu'est-ce qu'on met après derrière aimer le travail? Ça peut être qu'il permet de vivre, tout simplement. C'est divers. Mais ça, je pense que toute activité, ou quasiment toute activité, a ses deux pôles, de souffrance et en même temps de reconnaissance et d'émancipation. Alors évidemment, la part des deux, après, est très variable selon le type de travail accompli. Mais moi, qui ai travaillé principalement sur les apprentis et les élèves de lycée professionnel, qui préparent donc des travaux d'exécution, qui seront amenés à être des ouvriers et des employés, ils sont aussi à la recherche d'un sens, d'une utilité, d'une reconnaissance. C'est pas le propre des classes intermédiaires ou des classes favoriser, supérieures. Oui. Ouais. Après, je pense que les façons de faire, de ressentir, les stratégies sont très différentes de celles qui étaient décrites chez les étudiants que je connais aussi, puisque j'enseigne aussi dans les masters. Mais justement, je vois que le rapport au travail est très différencié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon sens, dire qu'une génération partage un rapport au travail. Il y a des rapports au travail. Les hommes et les femmes n'ont pas aujourd'hui le même rapport au travail.
La question du genre que vous avez traité dans vos
ouvrages. Et les jeunesses populaires qui, je rappelle quand même, apprentis et élèves de lycée professionnel, c'est un tiers des jeunes scolarisés après une troisième en France. Un tiers, c'est pas rien comme population. Pour ces jeunes, la confrontation au travail, elle ne se fait pas par des projections, elle ne se fait pas seulement par l'expérience des parents, même si elle joue, mais elle se fait par la confrontation aussi au travail. Et là, peut-être...
C'est-à-dire expliciter, s'il vous plaît.
Peut-être c'est des choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne dit pas assez. Quand on parle du travail des enfants en France, on imagine l'Afrique subsaharienne, l'Inde. On oublie effectivement qu'il y a un tiers de la jeunesse en France qui est apprenti ou élève de lycée professionnel et qui travaille très régulièrement. Un apprenti, c'est deux tiers du temps au travail, pour un tiers du temps au CFA. Et ces jeunes sont de plus en plus jeunes.
Mais ça a été encouragé, cet
Alors,
élan-là.
Voilà, ça a été encouragé par les gouvernements successifs qui ont valorisé l'alternance, en disant que l'alternance serait la clé de tout pour s'insérer sur le marché du travail et trouver un emploi. Mes recherches discutent très largement de cette idée, mais qui a été aujourd'hui diffusée. Et je pense que la plupart des familles et des jeunes partagent cette idée que s'ils font un stage, que s'ils font de l'apprentissage, ça sera plus facile de s'insérer sur le marché du travail.
Ce n'est pas vrai?
Alors, c'est partiellement vrai. C'est-à-dire que ce qu'on oublie de dire quand on dit ça, c'est que les apprentis, aujourd'hui, sont extrêmement sélectionnés. On imagine aujourd'hui que quand on fait un CAP ou un bac pro, c'est les jeunes qui sont relégués aux frontières des métiers les plus prestigieux. Or, moi, je montre dans mon ouvrage que c'est quand même...
Citez-le, votre ouvrage.
C'est, qui s'appelle « De l'indocilité des jeunesses populaires », donc, et qui s'attache pour beaucoup à la question du travail et du rapport au travail, d'une jeunesse, je disais, qui est de plus en plus jeune, puisqu'avec l'arrêt des redoublements en France, mais aussi avec l'affaiblissement du statut d'apprenti, la plupart des jeunes sortent aujourd'hui de 3e à 14 ans. Et quand je dis qu'ils sont confrontés au travail, ils sont confrontés au travail à l'âge de 14 ans. Donc c'est pour ça qu'on est très loin, effectivement, de cette jeunesse universitaire qui fait des stages, qui peut éventuellement
c'est
avoir...
C'est tant mieux, parce que c'est complémentaire. Je veux dire, voilà. Tant mieux pour notre rencontre,
bien
je voulais
sûr.
Dire.
Et qui peut avoir des travail alimentaires le week-end ou en ouais. fin de soirée. Mais là, je parle effectivement d'une jeunesse qui est confrontée très tôt. Et si on a l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure, qui sont confrontés à des conditions de travail qui sont particulièrement alarmantes.
Alors justement, si vous voulez, on peut commencer par ça. Je donnerai la parole ensuite.
Je poursuis.
Oui, sur justement comment peut réagir éventuellement le droit du travail par rapport à ces nouvelles conditions, si vous voulez bien en dire quelques mots, Lise, après l'intervention de Prisca.
Donc des jeunes de plus en plus jeunes, hein, je disais, qui arrivent, qui sont confrontés au travail dès l'âge de 14 ans, ce qui pose un certain nombre de problèmes, hein, cette précocité d'entrée au travail, sachant qu'on le sait, hein, le travail abîme les corps. Quand on regarde les grandes enquêtes, dont celles menées par le CEREC, on sait que plus on est bas dans les diplômes, plus les conditions de travail sont difficiles. Donc ce sont les jeunes, le moins de 14 ans, qui sont confrontés au travail le dimanche, aux heures non rémunérées, au travail dangereux. En toute légalité. Je rappellerai que depuis le 1er janvier 2026, il y a 6 jeunes de moins de 16 ans qui sont morts pendant leur stage en situation de travail, ce qui est un vrai drame et que les médias ne relaient pas. Et donc des jeunes qui se retrouvent sur des chantiers à conduire des engins dangereux, à monter sur des toits, à glisser et à se tuer. Et des filles, alors j'aurai peut-être l'occasion de développer, qui sont a priori moins confrontées à ce type de travail dangereux, mais qui ont aussi confronté à un travail physique extrêmement important. Moi, j'ai beaucoup observé, par exemple, les apprentis esthéticiennes. Hein, apprentis esthéticiennes, on a l'impression que voilà, c'est un travail simple, non technique. C'est déjà un travail technique, mais c'est un travail où on est 8 heures debout, avec des talons, dans des cabines qui sont noires, qui sont sans fenêtres, puisque les clients sont nus. Ce sont de l'encens toute la journée, avec cette musique d'avion qui vous trotte dans la tête pendant 8 heures, et avec de nombreuses jeunes filles, hein, dont je le rappelle, qui sont âgées de 14 ans, qui nous disent être confrontées à des demandes de massage de fesses, hein, sur des hommes, donc qui sont aussi confrontées, alors qu'elles sont très jeunes, à des situations dans l'esthétique, mais dans les maisons de retraite aussi. Hein. Ce que j'ai vu des maisons de retraite, c'est faire les toilettes des personnes âgées. Eh bien oui, quand vous avez 14 ans, être confronté au corps des autres, à la nudité, à la saleté, à l'odeur et à la mort. Il y a des apprentis qu'on fait embaumer à 14 ans les corps des personnes âgées qui sortent des maisons de retraite. Et voilà. Et cette jeunesse-là, j'y reviendrai peut-être après, mais on ne peut pas parler de son rapport au travail sans rappeler quand même les conditions dans lesquelles elle s'exerce.
Et merci de le souligner. Lise, sur cet aspect, là, dans ce cas, le tableau est éloquent. Certaines choses ont empiré, puisque vous dites de plus en plus jeune. Est-ce que le droit reste à la traîne ou est-ce qu'il doit s'adapter ?
La première remarque que je me faisais en vous écoutant, c'est de se demander si on ne s'éloignait pas un peu du sujet. Non. Oui. C'est la réflexion que je me faisais. Je ne dis pas que j'ai raison.
Ouais. Sur le sens
là, on
du
parle
travail.
Des conditions de travail. D'accord. On ne parle pas tant de ce qui a amené les jeunes à faire ça que des conditions dans lesquelles ils sont amenés, finalement, à avoir leurs premières expériences pratiques professionnelles pour un âge assez jeune. C'était la première réflexion que je me faisais. Je ne sais pas distinguer les deux. Le droit, est-ce qu'il est à la traîne ? J'ai envie de dire non. On a quand même un code du travail. Je ne sais pas si j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit en toute légalité.
J'ai posé la question.
C'est en toute illégalité. D'accord. Il n'y a pas l'interdiction. Les apprentis sont des salariés. L'interdiction du travail le dimanche, le principe s'applique aux salariés, etc., etc. En revanche, donc le droit, oui, mais le problème, c'est le contrôle des conditions.
D'accord.
Donc, droit, changer le droit, comment dire, en plus, on a déjà un code du travail assez volumineux. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas en rajouter. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. En revanche, la vraie question, c'est l'effectivité de ce droit. Et est-ce qu'il est bien appliqué, contrôlé, etc. Et la réponse, ça, évidemment non, puisqu'on a un déficit grave au niveau du corps, de l'inspection du travail notamment. Donc là, est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle là ? La réponse est clairement non. En revanche, est-ce qu'il y aurait besoin d'une nouvelle loi ou d'un truc ? Là, c'est pareil, la réponse est non. Par rapport au droit lui-même, et quand je vous écoutais aussi, je me disais qu'il faut quand même... Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Puisque vous me posez la question du droit du travail, c'est quand même intéressant de rappeler ce qui a amené à la création du droit du travail en France. On fait quand même partie des pays au monde qui ont la législation du travail la plus élaborée, la plus sophistiquée, décrets d'alarde, etc. Et c'est quoi qui a provoqué la naissance de cette législation-là ? C'est en effet le travail des enfants. D'accord ? Dans les mines, dans les manufactures de tabac, comme on avait à Toulouse, etc., etc. D'accord ? Et là, je me dis, alors, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose ? Parce que le travail des enfants qui a amené à la création du droit du travail en France, c'était le travail dans les mines et dans les factures. Et là, on les faisait travailler à partir de l'âge de 6 ans, 8 ans. Les premières lois qu'on a eues en France, c'est des lois qui réduisent la durée du travail des enfants à partir de 8 ans. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on tolérait que les enfants travaillent à partir de 8 ans et qu'il les limite à 50 ou 60 heures par semaine. C'est juste pour dire de là où on partait.
Oui, oui.
D'accord ? Bon. Et c'est ça les premières lois qui ont limité la durée du travail en France. Et notre droit du travail s'est construit petit à petit comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette réalité-là, nous, ça fait 2 siècles qu'on est passé par là. Mais cette réalité-là qui est de l'histoire pour nous, c'est encore de la réalité pour pas mal de pays aujourd'hui dans le monde. D'accord ? Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, c'est très bien. Et pour ceux que ça intéresse, on a la cartographie pour voir où est-ce qu'on a ces formes inacceptables, etc. Rien n'est acceptable s'agissant du travail des enfants lorsqu'on les met dans des conditions comme ça, que ce soit celle qu'on observe encore aujourd'hui dans notre pays du monde ou celle que vous décrivez. Rien n'est acceptable dès qu'on parle du travail des enfants en dessous d'un certain âge. La question, c'est le seuil. Mais... est-ce qu'on parle vraiment de la même chose ou est-ce qu'il y a des degrés de gravité ? Bon, voilà. Et question.
Au-delà du thème des enfants, qui est crucial, bien évidemment, il y a aussi, quand j'évoquais les changements liés au travail, l'ubérisation, par exemple, le télétravail dont il était question. Et c'est pour ça aussi que je vous posais la question juridique. Est-ce que... et vous me dites, c'est pas la peine, de toute façon, tout y est dans le code.
Ouais. Moi, j'ai envie de dire, tout y est, on a tout. On a un code qui fait plus d'un millier de pages. Mm-hmm. On a des conventions collectives. On a les partenaires sociaux, qui, etc. Moi, j'ai plutôt envie de dire que du droit, on en a suffisamment. Maintenant, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est la même chose au niveau international, au niveau des conventions internationales de travail, c'est l'effectivité du droit.
Et alors, pour lier, puisque ça semblait vous interroger avec le sens du travail, j'imagine, en candide, que de ce code du travail se dégage un sens malgré tout. On ne peut pas légiférer sur le travail si on n'a pas une idée du sens qu'il doit avoir, non ?
Je ne sais pas répondre à votre question, honnêtement. Je ne sais pas répondre à la question. Est-ce que... je ne suis pas sûre que les personnes qui font les lois se posent autant de questions.
D'accord. Alors, je vais passer...
Sur le sens. Par contre, ouais. Les questions qui se posent, c'est... il y a un rapport de travail, il y a un rapport de subordination, employeur-salarié, et il faut que ces conditions de travail soient le plus acceptables, conformes au progrès social. Voilà.
D'accord.
Là, la vraie question, c'est est-ce qu'on y est ou pas ? Et pour, on y est pour pas mal d'emplois, et pour pas mal d'autres, on n'y est pas du tout encore.
Margot, je vous ai vu comme si vous retourniez sur les bancs de l'université, noter beaucoup de choses. Donc, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Ou sinon, on pénètre davantage dans votre livre, comme vous voulez.
Non, mais je note toujours des choses parce que je pars du principe que j'apprends toujours, voilà, et tout au long de la vie.
C'est bien.
Je n'ai pas spécialement à réagir sur le code du travail. Simplement, peut-être dire que c'est vrai qu'on parle de code du travail. Depuis tout à l'heure, on parle de sens du travail. Et vous avez rappelé ce rapport de subordination. Le mot travail, je disais tout à l'heure que médiatiquement, politiquement, c'est souvent réduit à l'emploi, donc à ce rapport de subordination entre notre force de travail pour des finalités productives d'un employeur. Mais le travail, ça peut être pensé de manière plus élargie. Alors bon, là, ça nous éloigne de la question peut-être du sens du travail. Mais par exemple, en sociologie, il y a cette notion de travail gratuit qui est l'activité domestique, le fait de garder ses enfants, c'est du travail. Vous voyez, donc, on peut aussi s'interroger derrière cette notion de sens du travail, qu'est-ce qu'on met derrière le travail, question du sens.
Pour la question du sens, dites-moi, vous avez parlé de centre équestre, vous avez parlé de divers métiers qui sont évoqués à travers les travaux de vos confrères et consoeurs. Qu'est-ce qui s'est dégagé justement de cette enquête-là ? Qu'est-ce que les gens mettent, vraiment pénétrant dans le sujet, qu'est-ce que les gens mettent derrière le mot « sens » ?
Alors, en fonction des métiers, des secteurs, des individus, de leur histoire familiale, de leur histoire professionnelle, de leur projection dans l'avenir ou sur un marché de l'emploi, les acceptions du terme « sens » sont multiples. Et c'est là où ça nous semblait important d'écrire cet ouvrage, c'était de dire, en fait, le sens du travail a une de multiples définitions. Quand on s'est présenté au début et on a dit pourquoi on trouve du sens, on a entendu le terme utilité, reconnaissance, plaisir. Il y a aussi la puissance ou la force des liens sociaux qu'on va créer dans le travail, donc les collectifs de travail, que ce soit syndicat ou simplement avec les collègues, c'est en lien avec la reconnaissance, mais ça importe aussi pour donner du sens. Ça peut être aussi la santé. Vous parliez de la pénibilité des jeunes apprentis. Donc la notion de sens renvoie à une multitude d'éléments. Peut-être que ce qui est important aussi à dire, et ça rejoint un échange que vous avez eu de manière interposée, il me semble, Lise, dites-moi si je me trompe, vous disiez que le sens... Que Prisca parlait des conditions alors que le sens c'était autre chose. En tout cas, il me semble dans le travail collectif qu'on a élaboré depuis des années avec mes collègues et tous ces personnes qui ont fait des enquêtes, c'est l'idée quand même de dire que le sens, c'est pas quelque chose qui est déjà là, qui est donné en amont, c'est quelque chose qui se construit par l'épreuve du temps.
Qui se construit ou qui se découvre ?
Alors, qui se construit, qui se découvre, mais il se découvre parce qu'il se construit. C'est-à-dire que c'est une épreuve, le sens. Et c'est là où, pour le coup, dans cet ouvrage, il y a une multitude de textes qui critiquent aussi ce discours politique de dire qu'il y a des métiers qui ont du sens et il y en a d'autres qui n'en auraient pas. Et par exemple, certains métiers comme travailler à l'hôpital, ça a du sens. Donc, parce que c'est un métier passion, on pourrait le faire. Peu importe les conditions objectives dans lesquelles on le fait. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le sens, ça se construit. Donc, ça se construit dans l'esprit. Voilà, il y a les idéaux, les projections. Il y a la subjectivité, mais il y a aussi les conditions objectives. Par exemple, c'est pas parce qu'on donne du sens dans une activité que les conditions dans lesquelles on fait cette activité nous permettent de maintenir ce sens. Et c'est aussi un deuxième élément de l'ouvrage, c'est de dire que le sens, il est fragile. Il est à construire en continu. Quand je dis conditions objectives, c'est la pénibilité ou pas du travail, donc les conditions de production, de l'emploi, et bien sûr il y a le salaire, mais pas que, les conditions matérielles d'existence, les liens sociaux qu'on tisse dans notre lieu de travail, mais aussi le soutien qu'on peut avoir à l'extérieur, puisque notre rapport au travail et aussi se construit dans notre rapport au hors-travail. Et c'est les conditions subjectives, comme vous disiez aussi, avec quelles ressources mentales on va pouvoir affronter tel ou tel métier. Et simplement pour ajouter un dernier élément, tout à l'heure je parlais de différents métiers, en écoutant Prisca sur la pénibilité du travail, je pensais à deux enquêtes par exemple qui ont porté une sur les livreurs à vélo, par exemple, il y a une enquête qui montre qu'ils trouvent du sens dans leur travail parce que c'est un métier dans lequel il y a une autonomie possible, mais pour autant les conditions objectives sont tellement éprouvante, que ce soit salariale ou physique, que le sens ne se maintient pas longtemps dans ces métiers-là. Et une autre enquête qui porte sur les thanatopracteurs, qui sont les personnes qui vont accompagner le corps mort au moment...
Absolument, le rendre voilà. présentable, entre guillemets.
Tout à fait. C'est un métier qu'on catégorise en sociologie dans ce qu'on appelle un sale boulot. Alors, c'est pas péjoratif en soi, c'est un concept qui nous permet de dire c'est le type d'activité qui va être on a une perception négative, en tout cas quelque chose de sale, dans le sens c'est des métiers quand même difficiles. Et pour autant, par exemple, une enquête montre que des thanatopracteurs, pour donner du sens dans leur métier qui est difficile, parce qu'on a une confrontation avec des corps morts et un regard sur notre métier qui peut aussi porter à des critiques, des jugements, vont trouver du sens en partageant leur manière de bien faire leur travail, c'est-à-dire de rendre un corps mort présentable, d'avoir une éthique professionnelle qui soit le respect de la famille, des demandes de la famille, etc. Donc on voit bien comment dans divers métiers, en fait, parfois les conditions objectives permettent de donner du sens. Parfois, bien sûr, on a de la passion dans son travail, mais ça ne suffit pas pour maintenir le sens. Et c'est en cela que je me permettais de dire que le sens est une épreuve. Oui. Voilà.
Très bien. Il y a quand même quelque chose de positif que je retire de ce qui vient d'être dit. C'est qu'il n'est pas besoin d'être PDG de, j'en sais rien moi, d'Airbus pour trouver du sens à son travail, pas plus qu'il est nécessaire. Prisca, vous insistiez bien là-dessus, si je vous ai bien compris.
Oui, bien sûr. Hein. Moi, dans tous les jeunes que j'ai rencontrés, hein, je parlais de l'esthétique, mais j'ai regardé donc les maisons de retraite, la coiffure, l'automobile, le bâtiment. Ils ont tous un rapport ambivalent. Hein, à leur travail. Je rejoins tout à fait ce que tu disais sur la question de la construction du sens, parce qu'on voit comment à un moment il peut se construire et s'effriter. Si je reprends par exemple les jeunes filles qui font ce bac pro soins et services à la personne, hein, qui vont donc travailler essentiellement dans les maisons de retraite, elles ont tout d'abord, et c'est ce qui les singularise par rapport aux autres catégories de jeunes, elles ont un rapport plutôt positif à leur orientation. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont choisi d'être orientées vers un CAP ou un bac pro, mais sachant qu'elles devaient choisir un CAP ou un bac pro, eh ben, elles ont choisi celui-là et c'était leur premier choix. Donc c'est quand même un rapport beaucoup plus positif que peuvent avoir, par exemple, les jeunes hommes dans le bâtiment, où on voit que là, c'est souvent vraiment le dernier choix de la liste, le pis-aller. Et elles ont un rapport très positif aussi parce qu'elles ont le sentiment, alors ce sont des élèves qui ont été beaucoup disqualifiés dans leur parcours scolaire, et donc là, elles ont le sentiment qu'elles vont savoir faire. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Tu parlais tout à l'heure du travail domestique. Ce sont souvent des filles d'origine très populaire, voire paupérisées, qui ont des frères, des sœurs, souvent une maman seule à la maison, etc. Donc, ont été socialisées très jeunes à prendre en charge les tâches domestiques, à s'occuper du papa invalide, des grands-parents, d'aller chercher les petits frères et les petites sœurs à l'école, à faire du babysitting pour l'oncle et la tante, et donc qui ont le sentiment que c'est un métier où elles vont pouvoir s'épanouir et obtenir enfin une reconnaissance qu'elles n'ont pas obtenue par le biais de l'école. Et ce qu'on observe avec le temps, c'est que ce sens premier va s'effriter quand elles vont être confrontées aux conditions réelles de travail telles qu'elles s'exercent dans les maisons de retraite et où elles vont dire que finalement le sens qu'elles donnaient à leur travail, du souci des autres, ce souci des autres, elles ne peuvent pas le mettre en œuvre au quotidien.
À cause des conditions.
À cause des conditions qu'elles racontent très bien, que des fois on a 3 minutes pour un lavage, pour nettoyer une personne âgée, que ce n'est pas possible. Mmh. Et donc elles se retrouvent face à des situations où elles perdent pied, où le sens du travail s'effrite. Et on voit beaucoup de ces jeunes femmes qui, après l'obtention de leur bac pro, cherchent à se réorienter dans d'autres métiers où elles vont avoir l'impression qu'elles pourront réellement être utiles.
Très bien. Lise, je voudrais vous interroger, si vous souhaitez répondre, sur un mot qui a fait un anglicisme qui a fait son apparition, burn-out. C'est un mot qui est apparu, alors je ne saurais pas dater, mais encore une fois, il y a 15 ou 20 ans, on parlait de dépression, et on ne parlait pas de burn-out, qui est plus précisément lié au monde du travail.
Alors on n'en parlait pas en France. Mais oui, effectivement, ça fait quand même plus longtemps que ça existe. Et évidemment, c'est un anglicisme, il est venu des États-Unis. Mais là, c'est pareil, on touche aux conditions de travail. Je voulais juste revenir deux secondes, parce que ça va m'amener à répondre à votre question. Mais j'aimais beaucoup l'image que vous avez utilisée tout à l'heure, de dire finalement, pour chaque travail, il y a deux facettes. Et il y a un coût, il y a bénéfice-avantage.
Oui, épanouissement.
Voilà. J'aimais beaucoup cette image-là et je pense qu'elle peut vraiment parler au plus grand nombre. Et effectivement, tout travail s'accompagne d'aspects positifs et d'aspects négatifs pour faire très, très vite. D'accord ? Et un travail qui fait que, bon, on va continuer à l'exercer, c'est un travail où on va trouver un certain équilibre dans ces deux données-là. Et par rapport à la jeune génération que vous questionnez tout à l'heure, moi, la différence que j'y vois, c'est justement qu'elle est plus exigeante par rapport à ce ratio qu'elle est prête à trouver entre le travail, ce qui m'apporte de bon et ce qui peut m'apporter de moins bon ou là où il peut me faire souffrir. D'accord ? Donc là, je sens vraiment une exigence et peut-être même quelque chose d'assez déraisonnable dans certains discours de chercher le travail idéal. Voilà, le travail idéal.
Mais
où on est bien rémunéré.
De quels critères ?
Justement,
ce sont des critères financiers ou éthiques ?
Dans les études qu'on a, le critère financier est important, mais c'est pas celui qui vient en premier. Et une sensibilité, et par rapport aux générations avant, chez les jeunes générations, c'est la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale.
Oui.
Là, il y a une attention portée par la jeune génération à cette question-là qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait observer dans les générations antérieures, me semble-t-il.
C'est ce qu'on dit pour les jeunes médecins, c'est ce qu'on dit pour...
Bah oui, et c'est ce qui fait que c'est compliqué de trouver des médecins le week-end, et s'il n'y a pas des services de garde, et c'est les déserts médicaux, c'est bon, etc. C'est tout ce qu'on connaît. Donc ça, c'est cet équilibre. Et donc, et renforcé par le fait que les jeunes d'aujourd'hui, par rapport à la génération d'avant et encore, ils ont vu leurs parents faire. Et en effet, qui n'ont pas fait trop attention à cet équilibre, ou un peu moins. Et en effet, ils ont observé ces situations de surcharge de travail, de dépression au travail, de ce qu'on appelle le burn-out, et etc. Et alors, la définition du burn-out, alors, ce qui est encore valable aujourd'hui, hein, parce que ce n'est pas hier et aujourd'hui.
Oui.
Tout ça se crochette. Mais le burn-out, c'est en effet... Alors, les définitions qu'on trouve, on parle de déséquilibre entre la charge de travail qui est demandée par une entreprise, un employeur, et les moyens... financiers, humains, matériels, etc., qui sont donnés pour réaliser cette charge de travail.
C'est aussi, pardonnez-moi, le manque de sens, justement, pour rester dans... Je vous donne un exemple très précis. Des professeurs qui, mettons, n'ont pas les moyens, justement, ou vont corriger des copies qui... et l'inspecteur arrive derrière et met à mal tout ce travail-là, ou eux non plus ne disposent pas de... c'est le sens qui s'effrite, là.
C'est l'exemple que donnait Prisca tout à l'heure. Ouais. Et c'est dire, effectivement, on part dans un métier, on se dit qu'on va y trouver le sens qu'on cherchait, et puis la confrontation à la réalité par rapport aux moyens qui sont donnés par telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle circonstance pour réaliser ce travail-là, eh ben malgré toute la bonne volonté qu'on avait au départ, on tient pas.
Vous avez du recul sur vos étudiants, c'est-à-dire, bon, là, vous les avez encore à l'heure actuelle, mais est-ce que la vie vous a permis de voir le destin, à part celui qui est devenu maroquinier ou chez Hermès, ou, enfin, qui est, service juridique que j'ai bien suivi, mais en dehors de cela, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des anciens étudiants et d'étudier leur trajectoire, en tout cas
sûr.
De constater leur trajectoire.
Non, mais bien sûr, on a eu on a des organismes à l'université qui permettent d'assurer le suivi des cohortes. Puis après, les liens particuliers qu'on nous, avec certains d'entre eux, oui, avec lesquels on travaille. Donc oui, j'ai la chance d'avoir...
Et donc, vous voyez qu'ils ont trouvé du sens à leur travail de
Certains, oui, d'autres, non. Là, et voilà, et c'est là où je pourrais ouvrir les exemples de cette jeune avocate qui a travaillé dans un cabinet où l'une d'entre elles est là ce soir. Et puis... quelques 2-3 ans de collaboration, et puis à un moment donné, elle a préféré reprendre l'entreprise familiale. Voilà, donc on les suit, oui, pas tous, parce qu'on est à l'université, mais en tout cas, ce qu'on suit montre exactement ce que décrit Prisca. Ça veut dire qu'il y a des cas où ça se passe très bien, et puis eh ben, il y a des cas où il y a des réorientations, il y a des cas où il y a des réorientations au sein du métier initial. Voilà. Ouais, moi, pour ma part, je me situerais plutôt dans ce cas-là. Ça veut dire qu'au bout de 20 ou 25 ans d'enseignement du droit, à former des avocats, des magistrats, et quand j'ai regardé de plus près comment fonctionnait la justice, moi, j'ai plus trouvé ce que je cherchais. Moi, je voulais former des jeunes à être aptes à rendre ce monde plus juste. Et quand je me suis rendu compte comment l'université les formait, c'est-à-dire à être super techniciens du droit, mais pas à savoir écouter, pas à savoir communiquer, pas un respect suffisant du client... Moi, j'ai fait ma réorientation et j'ai pris une spécialité différente, qui est en prévention et règlement des différends, où je fais quasi plus de droit. Donc voilà, donc il y a des chemins comme ça. On n'est pas obligé de faire du 180 degrés, mais là, voilà, là c'est du cas par cas et c'est chacun sa quête de sens et voilà.
Margot, je vais vous poser une dernière question avant de donner la parole à l'auditoire. Il a été évoqué un monde plus juste qui pourrait effectivement faire sens que de travailler pour un monde plus juste. Il y a aussi l'écologie, il y a aussi... ceci apparaît dans les témoignages que vous nous offrez à travers votre livre ?
Alors oui, tout à fait. Simplement, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit. Tout à l'heure, je rappelais, et puis ça a été présenté par mes collègues, mais que la définition du sens ne fait pas de consensus. Ça renvoie à énormément de choses. Mais par contre, ce qui fait consensus, et c'est ce que vous rappeliez, Prisca, c'est la manière dont on prescrit notre travail aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont on organise ce qu'on est censé faire, la gestionnarisation, la quantification du travail, c'est-à-dire devoir tout traduire en chiffres, ça amène pour le coup à fragiliser, à empêcher le sens du travail. On a utilisé le terme de fragiliser, mais peut-être la question du sens du travail empêché est aussi importante, puisque parfois on va vers des corps de métier et on se dit pourquoi je veux faire ce métier pour telle et telle raison, et puis finalement comment je fais cette activité, comment je peux faire cette activité. Et là, il y a des contraintes, notamment qui viennent de ces transformations des organisations professionnelles aujourd'hui, qui font qu'on ne peut plus, que le sens ne peut plus tenir, même avec de la passion, même avec de la bonne volonté, etc. Pour réagir maintenant à ce que vous demandiez sur la question écologique, en effet, on en a parlé sur la jeunesse, mais l'ouvrage que j'ai co-dirigé revient sur des enquêtes qui parlent de l'écologie du travail. Il y a même un auteur qui se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas penser aujourd'hui le sens du travail comme un sens écologique du travail, c'est-à-dire finalement donner du sens à son travail, c'est essayer d'avoir des rapports avec le vivant au sens large,
responsable
avec l'environnement, la nature, mais aussi avec les autres, qui soit un sens responsable, un rapport juste avec les autres, qui est parfois empêché dans nos manières, nos conditions de travail aujourd'hui. Donc il y a cet élément-là. Et puis il y a des enquêtes qui reviennent par exemple sur le champ de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS, qui est souvent vu comme un secteur sur le marché de l'emploi dans lequel il y aurait du sens de toute manière. Et puis les enquêtes montrent que c'est pas toujours aussi simple. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans une scope avec une volonté de démocratie en interne qu'on fait un travail plus vert que finalement les personnes arrivent à maintenir du sens, parce qu'encore une fois, ça demande des efforts en continu. Et c'est peut-être ça aussi que le livre fait émerger, c'est l'importance de se dire qu'il n'y a pas que le salaire qui soutient le sens, là je pense qu'on l'a clairement vu, il y a énormément de conditions et qu'on a besoin d'être accompagné pour maintenir ces conditions de travail qui permettent de donner du sens dans des secteurs variés.
Même audio, une mémoire sonore.